Palabre
en forêt,
l'émission
Lozère-Gardoise
qui va à la rencontre
des acteurs forestiers d'ici et d'ailleurs,
avec une rubrique découverte des richesses naturelles des forêts sévenoles.
Retrouvez-nous un mardi sur deux à 11h
et un vendredi sur deux à 8h30
sur Radio Barthès
107 FM.
Bonjour à toutes, bonjour à tous sur Radio Barthès 107 FM. Bienvenue pour Palabre en forêt. Bonjour Margot.
Salut, salut.
Bonjour Léo.
Ouais. Salut, salut. Voilà.
Il est de loin. Et bonjour Jean-Claude Auberlé.
Bonjour.
Voilà, nous sommes à Bar des Cévennes, dans un atelier bois, et on reprend les portraits hommes et femmes des bois. Et en l'occurrence, Jean-Claude est un homme de bois, et on va
du
parler
bois aussi,
du bois.
Ça m'arrive d'être sorti autant. Ah. Sortir du bois, pas ça.
Tu sors du bois.
Les deux, les deux.
Il est terrible, ce Jean-Claude. Et donc, on a le plaisir de t'accueillir, et tu vas nous parler du métier d'ébéniste et de tourneur aussi. Mmh. Voilà, on va parler de toi.
En fait, moi, je me déclare plutôt contre artisan du bois.
Ah.
Ouais, parce qu'on fait un peu de tout. On fait aussi bien de la menuiserie, de l'ébénisterie, du tournage, de la sculpture. Quand on touche le bois, il faut toucher à tout.
Ah oui. Pourquoi donc, il faut toucher à tout?
Parce qu'au moins, comme ça, on n'est pas... Et puis, il faut être curieux quand même du métier que l'on fait. Mm-hmm. Et puis, il y a plein de brèches. Dans chaque métier, il y a plein de brèches qui peuvent être intéressantes. Et le métier du bois, ça consiste en ça, parce qu'un jour, tu as un meuble à faire, mais sur ce meuble, tu vas avoir à faire peut-être une petite sculpture, une petite peinture, parce qu'il y a du meuble peint, ça existe aussi. Hein. C'était notre métier avant d'être... qu'ébéniste. Et puis voilà pourquoi nous, on aime bien toucher. Alors j'avoue que la sculpture, c'est surtout mon épouse, hein, parce que moi, j'ai pas été livré avec la 3D.
Ah. Ouais,
donc c'est plus compliqué pour moi. Il me faut faire des dessins ou autre. C'est beaucoup plus long surtout. Alors donc, et puis je me lasse plus facilement maintenant. Donc c'est pour ça que... Mais c'est vrai qu'on s'est essayé à tout. Hein. Et moi, là, j'ai retenu le tournage parce que c'est quelque chose qui m'a plu. Hein, et c'est très rapide le tournage finalement. Enfin, on a le résultat assez rapidement. Quand on tourne en bois sec, ce théorique, il y en a beaucoup qui tournent en bois vert. C'est-à-dire on commence à tourner une pièce qui est verte, donc on la laisse pendant plusieurs mois dans des copeaux, dans la sciure, pour qu'elle finisse de sécher. C'est là qu'on se rend compte si elle faille, si elle bouge ou pas, et on la reprend au bout de quelques mois. Moi, j'ai pas le temps, là, non. Donc je tourne en bois sec, enfin, ou pratiquement sec, hein, enfin, voilà. Et du coup, bon, je peux avoir un peu plus de déchets que les autres, mais je m'en rends compte assez rapidement. Mais voilà pourquoi moi je me suis mis au tournage. Et puis bon, ce que j'aime à dire aussi, c'est que moi j'ai pris la suite de mes enfants. Je suis un petit peu à l'encontre de beaucoup de gens. C'est-à-dire que mes enfants sortent tous les deux du lycée des métiers d'art du ZES en tant que métier du bois. Hein. Mon fils est menuisier ébéniste, ma fille est sculptrice tourneuse ornementaliste et monteuse en bronze. Et donc voilà, et puis eux, j'ai acheté tout le matériel pour les installer. Et puis ça fait qu'au bout de quelques années, ben, la vie, maintenant, reste plus tous dans le toitant, dans le même métier. Quoi. Alors j'ai tout le matériel à la maison, j'étais déjà bon bricoleur, j'ai toujours travaillé dans le métier du bois depuis maintenant bientôt 30 ans. Et du coup, comme eux ont arrêté, moi je dis c'est dommage, je vais continuer à leur place. Voilà pourquoi je suis un autodidacte, mais qui a pris la suite de leurs enfants. C'est assez spécial, mais pourquoi pas, quoi, finalement.
Ah ouais, ça c'est...
Voilà, c'est pas les parents qui étaient... J'ai pas pris la suite de mes ancêtres, on va dire.
Okay,
pourtant, j'ai des ancêtres, pas mes parents, mais mes arrière-grands-parents, qui eux étaient charrons, c'est-à-dire ils fabriquaient les charrettes, les roues de charrettes. Alors, ça a sauté une génération, pour moi.
Et du coup, tu t'es formé tout seul? T'as appris tout seul le travail du bois?
Du coup, ben, j'ai appris avec d'autres copains artisans qui m'ont... Ouais, le tournage, j'ai un copain artisan à Chambory, qui est maintenant à Chambourigo, et qui m'a aidé aussi. Donc,
c'est Alain Maillan?
C'est Alain Maillan, ouais. Oh, oui. Ma fille était son élève.
Ah oui?
Donc, et puis bon, quand j'ai eu besoin de renseignements, de trucs... et puis bon, le tout, c'est de s'y mettre et puis de regarder comment ça fonctionne. C'est une machine, quand on regarde comment ça fonctionne, on comprend assez rapidement. Mais moi, je suis pas au niveau d'Alain Maillan. Hein, et puis, comme je le dis, je laisse ça aux jeunes et puis à ces gens-là qui ont envie d'aller dans le côté un peu poussé au niveau artistique et tout. Moi, j'ai pas le temps. Peut-être c'est l'âge qui fait ça. Maintenant, je me suis dit, oula, si tu veux le faire, tu n'auras pas le temps d'aller jusqu'au bout. Alors, donc, tu vas te concentrer sur ce que tu sais faire, ce que tu peux faire. Voilà. Et c'est comme ça qu'on fait pas mal de trucs. On a d'abord fait beaucoup pour nous. J'ai la chance d'avoir une épouse qui est artiste peintre et sculptrice, donc ça aide pas mal. Hein. Quand je fais beaucoup d'escaliers, nous, notre métier, le cœur de métier, c'est les escaliers. Ouais, parce que on en a fait un pour nous une fois, on l'a mis dans un gîte, les gens l'ont vu et depuis tout le monde veut ce type d'escalier.
Tu le fais en quoi, en quelle essence?
On le fait surtout, c'est châtaignier et frêne, les deux essences principales. Mais après, ça peut être toutes les essences que les clients demandent. Nous, on n'est pas arrêté à une essence de bois.
Tu vas les chercher où, ces châtaigniers, ces frênes?
Alors, le châtaignier, j'essaie de l'avoir localement. Mmh. Alors, c'est soit sur barre des Cévennes, la petite scierie que l'on a, quand ils en ont.
La scierie-combe.
La scierie-combe. Mais sinon, je le prenais au plantier. La série des plantiers,
oui.
Tu connais, mais bon, qui je crois viennent de fermer là,
ouais.
A priori. Sinon, ben, je me sers. Là, il n'y a pas la caméra,
on
mais.
On voit son manteau qui est sponsorisé d'un négociant basé sur Alès. Voilà.
Mais bon, voilà, je travaille beaucoup avec eux. Ouais. Je suis un bon client de chez eux.
Mm-hmm. Et du coup, sur le bois de châtaignier, tu arrives à trouver du bois. Est-ce qu'il te faut du bois sec pour faire tes escaliers?
Ben, le bois, généralement, il a 2-3 ans.
Okay.
Il n'est pas vraiment sec, mais il est quand même relativement sec.
Et alors, du coup, tu poses des escaliers sur toute la Lozère
Oui, on fait la Lozère, puis on va un peu dans le Gard, parce qu'on est des anciens gardois, donc.
Okay.
Il y a des gens qui... Puis comme on fait les salons un petit peu de partout, moi je fais les salons depuis le Cantal, l'Haute-Loire,
okay.
Lozère, Aveyron, mm-hmm. et donc on arrive à trouver des clients un petit peu, hein, on va pas trop loin, mais je dis pourquoi pas, hein, moi je dis aux clients, il y a des clients qui nous ont demandé d'aller en Normandie, dans les Pyrénées, voilà. Je dis, ben voyez, vous allez nous avoir pendant une semaine, c'est tout, hein. En pension,
t'en profites
et a priori ça ne les dérange pas, hein. Je dis, moi ça me fera faire des visites, hein, et puis vous, je dis, le tout c'est qu'il y a un marchand de bois pas loin, parce que je ne vais pas ramener le bois d'ici, je trouve que c'est un peu idiot, mais bon oui, on peut aller... On peut se déplacer pas mal, ça fait voyager.
Mm.
Les voyages forment la jeunesse. Hein. Ouais.
Quel âge as-tu? On n'a pas osé te demander.
J'y crois encore. Hein.
Tu veux pas nous dire ton âge?
Ah si, si, moi j'ai aucun complexe là-dessus. Ouais. J'ai bientôt 68 ans.
D'accord.
Je suis à la retraite, active. Ah. C'est-à-dire que j'ai des chantiers en cours. Les artisans, on peut toujours continuer à travailler une fois qu'on est à la retraite.
Mm-hmm.
Parce qu'on est toujours, voilà, ils nous autorisent. On travaille pour du beurre, on va dire. Ça ne nous rapporte pas des points pour la retraite, mais c'est comme ça, mais c'est pas grave. Hein.
Ouais.
Mais bon, j'ai des chantiers qui sont toujours en cours, que j'ai pas pu terminer. Mm-hmm. Donc je m'y suis mis parce qu'il a fallu que... année ou autre, la date, il fallait que j'y aille, quoi. Ça ne servirait à rien que je cotise un plus, ça ne m'aurait rien rapporté non plus. Et du coup, voilà. Mais je suis toujours donc actif et, ouais. Au niveau du boulot.
Et le métier d'artisan.
Ouais.
Artisan du bois. Maintenant que tu as dit, bon, tu es en retraite active, mais tu aurais un retour à faire dessus?
Pour moi, je trouve que c'est un super métier et c'est pour ça que j'essaye de trouver des jeunes et de les... Moi, tous les chantiers que je veux pas faire, je les renvoie sur d'autres personnes parce que il y a énormément de boulot sur la Lozère. Le tout c'est d'avoir envie de bosser.
D'accord.
Et mais on manque d'artisans parce qu'ils viennent, des jeunes, ils se restent là pendant 2-3 ans, puis bon ben ils sont ailleurs, ils n'ont pas la patience des fois d'attendre.
D'accord.
Et, c'est comme tout métier.
Il faut de la patience.
Il faut au moins 3 ans de présence pour que les gens soient habitués à vous voir. Et le jour où ils ont besoin de vous, ben ils vont venir faire appel. Et puis c'est fini. Après, une fois qu'ils ont fait appel, le cousin, le voisin, le copain, ça passe comme ça. Hein. Mais sinon, le métier de menuisier ébéniste, moi je trouve que c'est assez sympa. Hein. On intervient dans la vie des gens, et puis comme nous, on voit les retours et les remerciements.
Oui.
Et puis j'ai même d'autres copains artisans qui me disent: ah, j'ai vu un escalier, je savais que c'était toi qui l'avais fait.
Mmh. Ah, on reconnaît ta patte.
Ah ben voilà, parce qu'on n'est que deux artisans sur le secteur à faire ce type-là. C'est-à-dire que nous, on travaille le plus naturellement possible. Alors, on a arrêté, j'ai cette machine, mais je m'en sers pratiquement jamais.
C'est quoi cette machine?
Ça, c'est un combiné à bois. Il y a un rabot d'égout, il y a une scie, il y a une toupie. Mais une défausseuse aussi. Mais je m'en sers. Enfin, maintenant, là où je me prends le bois, on peut faire ce travail à ma place qui est plus physique, on va dire, oui. De raboter, d'égauchir et tout. Donc à ce moment-là, moi, je me suis équipé avec du super matériel portatif.
Oui.
Parce que quand je vais chez les clients, moi, je fais le travail chez le client. On ne fait que du sur-mesure. Hein.
Ouais.
Donc, on travaille dans les maisons de Cévenol. Il n'y a rien de droit, ni les planchers, ni les murs, ni le sol, ni les plafonds. Donc, on est obligé de s'adapter.
Ouais.
Donc, on fait l'escalier sur place. Et on le débite, on le prépare à l'atelier. Puis après, on va découper, on fait des patrons pour chaque marche, parce que comme le mur n'est pas droit, donc on ne peut pas tirer droit. Et si on fait un truc droit, ça veut dire qu'il va y avoir des vides, ou à droite ou à gauche, selon vous voyez, et ça ne va pas faire sympa, quoi. Et donc, c'est pour ça qu'on s'adapte, nous, à la maison, et on le fait sur place. Donc, je ne peux pas amener ça avec moi, quoi. Donc, ce n'est pas possible. Donc, on amène les bois pas prédécoupés, mais presque, quoi, on va dire. Et là-bas, par contre, on affine, on se met à la dimension, et pour ça qu'on reste à peu près entre une semaine, ça dépend de la taille de l'escalier et la configuration, entre une semaine et 10 jours. Et puis bon, ouais, après le reste du métier, ben, y en a plein, hein, les poses des fenêtres, tout ça, il y a des jeunes qui sont là autant que ceux qui le fassent. Hein. Et puis la fenêtre et les portes, c'est quelque chose où les normes changent tous les 3-4 ans, même fois moins. Donc il faut changer les outils, ça coûte assez cher. Maintenant, c'est que des machines numériques, parce qu'on sort en quantité pour tomber les prix. Donc c'est des petites industries, des petites menuiseries industrielles qui font ça, petites ou grosses d'ailleurs, et on commande de chez eux, comme tous ils font, on commande et on pose. Il reste que Valbois, je profite de faire la promo, hein. il y en a une Sevenol juste en dessous de nous,
à Sainte-Croix,
voilà, ouais. Et puis il y a un autre jeune maintenant aussi, sur Moissac je crois aussi, qui le fait, qui fait de la menuiserie, tu dois le connaître d'ailleurs, certaines, je ne me rappelle pas son nom, parce que ça fait 3 ou 4 ans qu'il est dans le métier, enfin qu'il fait ça, voilà. Et sinon pour les escaliers, il y a Clara Bonal à Saint-Germain-de-Calbert, qui fait aussi, mais qui est plus maintenant axée, puis je la comprends, sur le côté déco. Elle s'est mise avec une décoratrice intérieure ou architecte intérieure, je ne sais pas comment on peut nommer. Et c'est vrai qu'elle fait des trucs sympas. Okay. Et les premiers escaliers qu'on avait vus, d'ailleurs, c'est elle, on avait vu qui avait fait ça, dans les vieilles maisons à côté de Saint-Germain. Alors c'était un peu dingue, rien qu'avec des planches toutes trouées, toutes biscornues ou autres. Mais elle faisait des trucs sympas. Et puis on se rencontre de temps en temps sur les salons, les trucs comme ça. On en profite pour discuter. C'est une personne très agréable. Clara Bonal, ouais. Son père était déjà dans le métier. Elle a pris la suite de son père.
C'est une boiseuse, alors. Ok.
Ah oui, c'est une boiseuse à 200%.
Et si je ne me trompe pas, tu fais partie de la Chambre des métiers d'art. Est-ce que tu peux nous...
De l'artisanat.
Artisanat, oui.
Et je suis dans l'artisan d'art.
Oui. Est-ce que tu peux, du coup, nous expliquer ce que c'est et qu'est-ce que tu y fais?
Alors moi, je suis donc membre associé, c'est-à-dire que je suis un élu qui était sur le fin de la liste, mais on a le droit d'en prendre que, comme pour toutes les élections, un certain nombre, mais ceux qui sont derrière sont aussi, enfin, au même terme que les autres, donc élus, mais ils n'ont pas la terminologie d'élu, on appelle ça membre associé, donc c'est pour ça que moi je suis à la Chambre des métiers assez régulièrement, et je suis là aussi pour les aider, et puis comme je suis artisan d'art, alors artisan d'art, il faut avoir donc 3 ans d'ancienneté dans ton métier, et tu peux demander, et il y a une liste de métiers qui peuvent rentrer dans le cadre d'artisanat d'art. Okay. Voilà, donc c'est chaque chambre des métiers qui met ça à jour, et après c'est régional et national en même temps. Voilà, et donc moi je suis dans les artisan d'art, et donc aussi élu à la Chambre des métiers.
Okay.
Et mon boulot, ben, c'est de faire ça, de faire la promotion de l'artisanat, puis qu'il y a des jeunes qui ne savent pas trop, est-ce qu'on se déclare, est-ce qu'on ne se déclare pas, est-ce que je le fais mon métier. On est là pour les pousser, leur donner un peu de boulot, leur dire, si, mais vas-y, déclare-toi, ça veut dire que ça te coûtera rien de plus, parce qu'on a la facilité maintenant aussi avec l'auto-entreprise, de pouvoir faire un démarrage et savoir si ton métier va être rentable ou pas, et après... à son choix à lui de se dire, ben, je me déclare en tant qu'artisan à titre principal, ou tu restes en tant qu'auto-entrepreneur, c'est faisable aussi. Mais les deux, ça dépend aussi de la Chambre des métiers, et l'auto-entreprise. Ça se fait sur Internet, mais on est, selon ce qu'on se déclare, on est affilié donc soit à la Chambre des métiers, soit à la Chambre de commerce, soit, enfin bon, après selon les métiers.
Okay. Voilà.
Mais de toute façon, il retombe à la Chambre des métiers.
Okay.
Pour nous, les artisans, quoi, ceux qui sont dans ce métier-là. Voilà un petit peu mes fonctions au niveau de... Et c'est pour ça que, bon, j'étais hier donc à Mende pour préparer le futur salon de l'artisanat. Donc vous allez avoir une première, ça s'appellera Artisan d'ici. Jusqu'à maintenant, c'était Artisan Nature, basé surtout sur le côté bâtiment. On a changé son nom parce que on était surtout ciblé sur le côté habitat.
Ok.
Et il y a un salon de l'habitat à Mende maintenant, qui n'est pas organisé par nous, mais par une société privée, Dupuis. Et donc, là, on s'est dit, là, on va essayer de faire venir tous les artisans, toutes les professions qu'il y a dans l'artisanat. Hein, ça peut partir depuis le taxiteur qui est artisan, celui qui vend des voitures, le garagiste, le coiffeur, le boucher, au niveau de l'alimentaire, puis tout ce qui est au niveau du bâtiment aussi, mais qui n'est pas que le bâtiment, parce que moi, je fais quand même partie du bâtiment. Le métier du bois, ça fait partie du bâtiment. Alors voilà pourquoi on est en train de travailler sur un nouveau concept.
La date est déjà fixée, du coup ?
La date est déjà fixée. Ça sera du 10 au 12 octobre.
Ok, donc le même week-end que...
Georges Frêche, Amanda.
Le même week-end que la fête de la forêt, édition 2025.
Malheureusement, mais... ouais.
Vous partagez. Tout est possible.
On ne peut pas apprendre tous les artisans de la Lozère. Parce que, alors, il faudrait qu'on demande à agrandir la salle là-bas. Mais bon, en règle générale, il y a quand même pas mal de monde. Mais il y en a qui pourront quand même venir avec vous.
Oui. Tant mieux alors.
Et tu parlais des jeunes. Et tu en reçois des jeunes parfois pour leur montrer le métier ?
J'en ai reçu puisque j'étais accueillant moi pour le lycée des métiers d'art d'Uzès. Okay. Et donc j'ai eu pas mal de stagiaires qui sont venus ici. Okay. Et on a formé aussi des formés. On faisait de la formation, mais pas qualifiante. C'était pour les gens qui avaient envie de se faire plaisir. Les gens qui venaient apprendre pour faire de la sculpture, pour faire du tournage.
Tu faisais des stages ?
On faisait des stages, voilà. Okay. Oui, c'est... Alors de temps en temps, ça nous arrive, mais on ne fait plus la promotion de ça, donc ce qui fait que ça fait quelques temps qu'on n'en fait plus. Et puis je suis aussi à la création de l'association Créateurs des Cévennes, où on s'est regroupé des créateurs.
Elle est où cette association ?
Elle est basée sur Florac, elle était basée à Bar des Cévennes avant parce qu'elle était chez moi. Ouais. Mais pour la parité, j'ai voulu que ce soit aussi des filles qui prennent la suite de la présidence. Ouais. Donc c'est sympa, donc là c'est une jeune... Actuellement, ça fait depuis 4 ans maintenant que c'est Sandy Blanc, je crois, qui est présidente de l'association, qui fait elle, du tissage. Et je pense que la prochaine, ça risquerait d'être une couturière. Voilà, donc ça... Et là, on fait donc pas mal d'animations sur le secteur pour essayer de valoriser le métier des créateurs. Et alors, on a aussi des peintres avec nous parce que, bon, en tant que créateur, on n'est pas obligé de dépendre de la chambre des métiers. On peut aussi dépendre de la maison des artistes.
Et à Florac, on t'a déjà vu faire aussi des marchés.
Oui.
Et bien sûr, on t'a recruté pour la fête de la forêt. On l'a pas dit, mais tu as été présent, bien sûr, à la première édition à Bar des Cévennes et à la deuxième édition. Et tu proposais là plein d'objets tournés. Mmh. Et on se souvient notamment de la collection de stylos que tu proposes. Tu peux nous en parler, les essences que tu choisis et pourquoi ?
Alors, moi, je choisis, depuis quelques années, j'ai décidé de faire des stylos dans le cadre du zodiaque celtique. Je présume que c'est ça qui te branche. Alors, le zodiaque celtique, c'est en fonction de l'essence d'arbre. De notre date de naissance, le jour et le mois, on est affilié à une essence d'arbre. Oui. De la même façon qu'on est verso, poisson, ou gémeaux ou autre. Là, on est chêne, on est châtaignier. Je trouvais ça le côté assez sympa. Ouais, et puis, c'est que des essences locales. Ouais. Donc c'est beaucoup plus, d'autant plus sympa. Il y a certaines essences qui ne sont pas identiques dans toute la France, on va dire, ou dans tout le monde celtique, parce qu'il n'y a pas que la France qui est celtique, mais qui sont remplacées par des voisines très proches. Mais voilà, donc je pense notamment au cormier, c'est le sorbier qui le remplace par... Alors, des fois c'est le cormier, des fois c'est le sorbier. Alors, il y a quelques essences comme ça qu'on ne trouve pas forcément partout. En règle générale, toutes les autres, on les arrive à les trouver partout. Mais celle-là, non. Donc voilà pourquoi. Et c'est ce qui m'a intéressé là-dessus. J'ai commencé, moi, d'abord, quand je fais un meuble, quand je fais un escalier, il y a toujours des chutes de bois. Et ces bas, je les garde. Les autres, je les brûle. C'est pour ça que, et progressivement, j'ai éclairci, j'ai eu fait des stylos en bois exotique, mais j'ai trouvé que c'était idiot d'aller chercher du bois. Pourtant, je peux, j'ai mon fils qui est à La Réunion, donc du bois exotique, je peux en avoir. Il m'en a même ramené. Mais bon, je me dis, il faut laisser ça là-bas. Je suis allé à La Réunion et j'ai vu des gars qui faisaient des stylos. Alors je me suis dit, non, toi, tu vas pas faire des stylos en bois de rose ou en bois d'ébène ou autre. Et tu vas faire des stylos avec le bois que tu trouves ici. Restons les forêts de la région et puis qui sont certifiées, quoi, voilà. Mmh. Et puis bon, puis il y en a tellement ici. Rien que pour le zodiaque celtique, moi j'ai 21 essences de bois. Et il y en a beaucoup plus, hein, mais tous ne sont, rentrent pas dans le zodiaque celtique. Mmh. Hein. Donc c'est vrai qu'ici, quand on se promène en forêt, on a tendance à parler du châtaignier, du chêne, et puis des, tous les résineux, les sapins. Mais il y en a énormément d'autres, je dirais, ou le hêtre. Enfin, bon, c'est des bois qu'on parle le plus, le frêne, ouais. Hein, ici qui est méconnu. Et pourtant, le frêne, moi je fais des escaliers en frêne, avec le frêne olivier qu'on appelle à l'avenir rouge-rose du milieu.
Finalement, dans la forêt, on trouve tout ce qu'on veut. Et ouais.
Toujours. En promenant, en respirant. C'est, et puis bon, la forêt nous amène à tellement de choses.
Et une petite dernière question, Jean-Claude. Pour la fête de la forêt édition 2023 qui s'est passée à Bar-des-Cévennes, on avait organisé un concours de bûcheronnage et tu nous avais gracieusement fourni un superbe trophée dans une essence un peu particulière. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'était ?
Alors, c'est de l'oranger des osages. Oranger parce qu'il a la couleur orage, et osage parce que c'est un arbre qui est originaire d'Amérique du Nord. Les Indiens osages qui en faisaient leur arc. Et il faut savoir quand même qu'au XVIe siècle, cette région-là était française. Et on l'a gracieusement donné aux Anglais pour le phrase symbolique, on va dire, puisque monsieur les Anglais tiraient les premiers, donc il manquait la moitié des Français au bout du rouleau. Et donc c'est passé sous. Et c'est les osages, les Indiens osages ne voulaient pas passer sous le dictat anglais, ils voulaient rester français. Ils sont donc venus à cette époque voir le roi, rencontrer le roi Louis XIV. En France, ils sont arrivés par la Bruxelles, parce que je pense que c'est le port d'Amsterdam, ils ont dû certainement arriver par là, et ils sont descendus progressivement. Donc ils sont, dans leur bagage, il y avait des plantes d'oranger des osages pour offrir justement aux dignitaires de l'époque. Et alors c'est pour ça qu'on a retrouvé donc des oranger des osages à Bruxelles, dans la... comment ça s'appelle la serre royale, et qu'ils en ont planté là. Ils en ont planté au Jardin des Plantes à Paris, il y en a aussi, et à Montpellier. Voilà, les trois, plus ou moins. Donc, il y a trois couples qui sont venus en Europe, on va dire, hein, parce qu'ils sont arrivés en arrivant par le nord de l'Europe. Et sur les trois couples, on sait qu'ils n'ont peut-être pas rencontré directement Louis XIV, mais ils ont rencontré ses ministres. A priori, ça n'a pas fonctionné, puisqu'on l'a quand même vendu aux Anglais. Mais on sait qu'il y a un des couples dont la femme est décédée en France. Et un couple, par contre, donc, qui est resté, lui, en Europe. Et l'autre, l'homme qui est tout seul, ils sont retournés donc dans leur pays d'origine. Mais on a donc un couple d'Indiens osages qui est resté. Donc ça veut dire qu'on est peut-être un des descendants de la famille des osages qui sont arrivés là. Et voilà pourquoi donc, moi, et ce bois a été implanté dans les Cévennes parce que au XVIIe siècle, quand il y avait. Donc c'était la guerre des camisards et tout, il y avait pas mal de forêts qui brûlaient ou tout. Et les mûriers, en altitude, ne résistaient pas pour faire manger les vers à soie. Donc ils se sont rendus compte que il y a beaucoup de variétés de vers à soie qui mangeaient du coup la feuille des orangers des osages. Donc on a planté des orangers des osages en altitude pour pouvoir nourrir les vers à soie qui étaient, parce qu'il y en avait ici, hein, sur Bémeux, sur Barre des Cévennes, on n'avait pas de mûrier, mais la soie était présente parce qu'on avait dans les bergeries ou dans les hauts des maisons, on plantait toujours des. On décoconnait, il continue d'ailleurs, mais bon, pour d'autres raisons. Petit truc côté humoristique de la chose. Mais voilà, et à ce moment-là, donc il fallait bien les nourrir parce que ça mange énormément les vers à soie. Donc voilà pourquoi il a été planté en altitude dans les Cévennes et peut-être ailleurs, hein, je sais qu'en les Cévennes ça a été fait, des orangers des osages, c'est pour ça qu'on en trouvait sur Florac notamment.
Ça ressemble à des grosses balles de tennis les fruits, c'est
voilà,
ça.
Voilà, c'est ouais. Ça, avec un peu des picots dessus là. Ouais. Et alors, il y en a qui disent qu'ils sont comestibles, d'autres non. Moi, j'ai jamais goûté. Donc,
On s'abstient. Ouais, on s'abstient. Ouais, tant qu'on n'est pas sûr.
Donc, voilà pourquoi. Et donc, j'ai ces trophées. Je suis tombé une fois sur un vieux monsieur, côté d'Anduze, qui était lui, qui avait des pépinières. Et qui m'a dit, mais moi j'ai été obligé de couper un oranger des osages dans mon camping, parce qu'il avait monté un petit camping, et parce que ça devenait trop dangereux pour les gens sur les tentes, et vous ne le voulez pas, et j'étais allé le récupérer comme ça. Et du coup, quand vous m'avez proposé, vous cherchiez des trophées, moi j'avais celui-là parce que j'avais fait pour le Festival du film québécois à Florac. Mmh. Et puis c'est la petite anecdote, c'est que c'est les Québécois qui viennent, donc c'est un arbre originaire d'Amérique du Nord.
Mmh.
Et puis voilà, c'est le petit clin d'œil aux Québécois qui viennent ici pour trouver un trophée finalement dans le bois de chez eux.
On demande... à tous les invités, est-ce qu'il y a un mot forestier que tu veux ajouter? Ça peut être un souvenir en forêt, une anecdote, ça peut être comment, un vœu, un souhait.
Ah, un souhait. Eh bien, moi, le souhait que j'ai, c'est que j'aimerais qu'on apporte plus d'attention à la forêt. Là, en ce moment, ça va faire crisser beaucoup de dents, mais c'est pas grave, il faut bien qu'un jour on y arrive. C'est qu'il y a beaucoup d'aides qui sont données à l'agriculture, c'est très bien, et très peu, finalement, au monde forestier. Et pourtant, je crois qu'il faudrait qu'on inverse la balance. Je veux pas qu'on enlève les aides au monde agricole, mais que je pense qu'il y a un partage qui soit à faire. Le monde forestier, lui, est ce qu'il est. Il est assez agressé. Et on le brûle. On le voit en ce moment avec les États-Unis. On l'a vu avec le Portugal. On l'a vu. Donc, les forêts diminuent. Et pourtant, si on respire, c'est quand même grâce à eux. Oui. Donc, j'espère qu'on va en tenir compte et qu'on va maintenant aider de plus en plus le monde forestier pour la replantation, mais de la replantation qui soit sensée. Et pas qu'on reparte comme dans les années 70 où on n'a planté que du résineux. Et c'est-à-dire, c'est ce qui brûle en ce moment, malheureusement. Bon, à l'époque, il y avait une demande, il y avait une raison, c'était parce qu'il poussait vite et qu'on en avait besoin pour les mines. Mais je trouve qu'il faudrait maintenant penser à faire la forêt nourricière. Hein. Mmh. Ça commence à en parler, ou la forêt gourmande, on en parle aussi.
Oui.
Donc nous, c'est ce qu'on voudrait essayer de mettre en place ici, de remplacer donc le pin par des arbres un peu plus, le châtaignier, puisque maintenant il pousse sur nos altitudes, il poussait déjà avant. Hein. On peut faire plein de choses avec la forêt. Hein. On se nourrit, jusqu'à maintenant on faisait du matériau d'habitation, on va dire, ou de chauffage, mais il faut pas laisser maintenant à la nourriture, c'est précieux. Et puis bon. Pourquoi pas rêver de ce côté-là ? Moi, je trouve que c'est quelque chose à laquelle il faudrait venir.
Merci beaucoup.
Merci.
Jean-Claude. Et bah du coup, on vous propose une petite pause musicale avant de dire au revoir à Jean-Claude. On va écouter Mano. Et Léo nous fera la surprise de quel titre il a choisi.
À bientôt.
À bientôt.
Et mythique, une langue gaélique, des filles magnifiques, une culture mystique belle qu'on appelle celtique. Ah
vous êtes toujours sur Radio Barthas 107FM. Nous sommes maintenant en studio et on retrouve Aymeric Sulmont du Parc National des Cévennes pour sa fameuse chronique Plantes et animaux des bois.
Plantes et animaux des bois.
Un contact avec Dame Nature dès que l'aurore darde ses rayons d'argent à travers des écharpes de brume.
Il y a des hirondelles, des chauves-souris, il y a pas mal d'amphibiens.
Monsieur Sulmont, bonjour.
Bonjour.
Comment vas-tu?
Moyennement, j'ai une petite toux, ça va peut-être s'entendre, on verra bien.
Alors, de quoi tu vas nous parler aujourd'hui?
Eh bien, ça m'a un peu inspiré ce qu'il a dit sur le Zodiac Celtique, notre invité, et j'ai trouvé qu'il y avait moyen de faire un lien, à peine tiré par les cheveux, même quasiment pas tiré par les cheveux, vers le chêne. Et en plus, j'ai appris que c'était ton signe zodiacal sectique, le chêne.
Ouais, ça dépend les sources, mais moi, ça me va bien. On peut partir là-dessus.
Bon, ben voilà. Et puis, voilà, qui dit celte, dit druide. Et druide, ça dit un peu la même chose que chêne. Je ne sais pas si vous connaissez l'étymologie, mais l'étymologie de druide est un peu contestée. Mais enfin, elle est discutée, on dit. Mais dans druide, il y a la racine dru. Qui désigne le chêne, okay. Tout simplement, et que c'est pas une racine latine, mais c'est une racine, je crois, celtique, tout simplement. Et il y a le suffixe huid derrière, druide, qui veut dire savoir. Et donc savoir et chêne sont associés dans le mot druide. Et pas pour dire que c'est un savoir du chêne, mais le chêne est associé à l'idée de robuste, de ferme, de sérieux, quoi. Et donc, les druides sont considérés comme des savants, quoi. Et c'est pour ça que l'idée de druide et de chêne est très associée, quoi. Voilà.
Okay.
Donc, je pars sur le chêne. Et évidemment, vous connaissez tous l'anecdote du druide qui monte sur un chêne et qui a trouvé du gui et qui le coupe à la faucille d'or, etc., pour récupérer. Parce que ce gui du chêne, étant extrêmement rare, il a forcément des vertus magiques.
Le gui du chêne est différent. Le gui du chêne.
Mais moi, j'en ai jamais vu. Ah. J'ai vu du gui sur châtaignier en Cévennes, qui est assez fréquent, notamment dans la vallée de l'Altier. Vers Villefort, là-bas. Il y en a beaucoup sur châtaignier, mais je n'en ai jamais vu sur chêne. Et bon, ben, je demande qu'on m'en montre, mais pourquoi pas.
Et alors, le gui du chêne aurait des propriétés particulières?
Ah ben, il faut demander aux druides, mais on ne peut pas les interroger. Mince. Et comme vous savez que les druides, ils écrivaient pas, ils transmettaient tout à l'oral. Donc, on a beaucoup de mal à savoir ce qu'ils savaient. C'est ça qui est bon. Mais voilà, ça s'est transmis quand même dans... à l'oral. Et donc, je voulais faire un focus sur le chêne parce que je trouve que c'est une essence qui est évidemment omniprésente dans les forêts de France, mais finalement en Cévennes, en dehors du chêne vert de la région méditerranéenne et du chêne pubescent des gorges du Tarn, qui est quand même assez bien présent, c'est pas une essence considérée comme une essence forestière au sens où on va faire des grandes poutres avec. Mmh. C'est pas une essence de bois d'œuvre. C'est plutôt une essence de bois de chauffage. Et c'est bien dommage, mais bon. Donc je voulais faire un petit topo sur tous les chênes qui nous environnent et au-delà même des frontières des Cévennes. Mais je vais commencer par les Cévennes. Donc je viens de citer le chêne vert pour les vallées méridionales. Hein. Tout le monde le connaît, je ne vais pas le représenter. Et ensuite, on parle du chêne... alors j'ai parlé déjà du chêne pubescent, mais en fait, tous les chênes à feuilles caduques qui perdent donc leurs feuilles en hiver, qui perdent d'ailleurs leurs feuilles pas tout à fait au début de l'hiver. Ils traînent un peu la patte pour les perdre. Vous savez, ils les gardent un peu. Et en fait, c'est au moment où la sève remonte dans les branches que les chênes perdent la totalité de leurs feuilles.
Ouais, mais elles vont devenir marron. Les feuilles deviennent marron, restent tout l'hiver et après elles tombent.
Elles lui font un petit manteau quand même, ça doit permettre d'isoler. Et on appelle ça du coup, ça c'est un petit mot savant. Le mot savant du jour, ça sera maraissant. Okay. Les feuilles du chêne sont maraissantes. Elles attendent que la sève de la nouvelle année arrive pour réellement tomber. Petit détail, donc les trois chênes qui ont des feuilles caduques en France, mais il y en a plusieurs en fait, mais en Cévennes, ce sont surtout le chêne sessile et le chêne pubescent. Et l'un est plutôt, aime le chaud, aime les zones de basse altitude, et l'autre va grimper en montagne, c'est le chêne sessile. Donc pubescent plutôt en bas, et le chêne Cécile plutôt en haut. Jusqu'à pour ce qui concerne les Cévennes, c'est assez étonnant. On a des chênes qui montent, alors peut-être liés au réchauffement climatique, mais ça fait quand même quelques années qu'ils sont là, qui montent à 1400 mètres. Oh, c'est wow. Vraiment le record Cévenon. Si vous avez un chêne plus haut, c'est intéressant de le noter. Mais on a quelques pieds de chênes qui frisent les 1400 mètres sur le mont Bougès, notamment.
De chêne Cécile, du coup ?
Chêne Cécile, voilà. Okay. Donc il va avoir des feuilles totalement glabres. Et des fruits sessiles, ça veut dire des fruits qui sont portés par aucune petite... Il n'y a pas de petit pédoncule comme le chêne pédonculé. Alors le chêne pédonculé, c'est un chêne plutôt de l'ouest de la France et du nord de la France, qui est très peu présent avec des très grandes feuilles. Très peu présent en Cévennes, il y a quelques signalements de pieds peut-être plantés il y a très longtemps. C'est le fameux quercus, alors en latin on dit quercus robur. Robur, ça confirme l'idée du chêne, de la robustesse. Le mot robuste vient du chêne, en fait. Voilà. Donc, on a grosso modo chêne vert, chêne pubescent, chêne Cécile. Ça, c'est les trois qu'on a en Cévennes. Et puis, si vous gratouillez vers la Garrigue, notamment du côté de Saint-Ambroise, peut-être on en a trouvé aussi du côté d'Anduze, il y a le chêne impénétrable qui s'appelle le chêne Kermesse. Est-ce que vous avez déjà fait des balades dans le chêne Kermesse ?
Oui.
Vos jambes s'en souviennent ?
Oui, c'est assez terrible.
C'est atroce. On ne peut pas traverser un buisson de chêne Kermesse. C'est le chêne le plus piquant qui soit et qui d'ailleurs constitue ce qu'on appelle la garrigue, parce que l'autre nom du chêne Kermesse, c'est garrigue. Et donc, okay. Il a donné son nom à la garrigue. Donc, la végétation de garrigue un peu caricaturale, c'est vraiment une petite végétation de 2-3 mètres de haut, garnie de chêne Kermesse, impénétrable et extrêmement piquant, et avec d'autres plantes. Mais
oui,
ça...
c'est ça, le chêne Kermesse, il n'est pas très haut. Il est...
C'est comme un petit chêne vert, avec des feuilles toutes petites, extrêmement piquantes, qui montent à 2-3 mètres grand maximum. Par contre, il est très original, parce que c'est un de ceux qui fait les glands les plus gros, les plus remarquables. Okay. Il fait toutes petites feuilles, mais très gros glands. Et je voulais un petit peu insister, même si c'est très anecdotique pour les Cévennes, le chêne Kermesse. On en a, je disais, à Saint-Ambroise, en Duse. Il faudrait chercher un peu du côté de Sumène s'il y en a, mais je ne crois pas. Il abrité pendant des années une cochenille qui était au Moyen-Âge et même à l'Antiquité, qui était récoltée, cette cochenille, pour faire le rouge carmin.
Ah oui, ok.
Et c'est le mot Kermesse, en latin, c'est, on dit... il s'appelle aussi... pardon. On appelle chêne Kermesse, mais Kermesse, ça vient justement du nom de la cochenille, qui s'appelle Kermesse vermillot. Et cette cochenille, donc elle a produit énormément de colorants rouges dès l'Antiquité. Et ça a donné le nom de carmillon, de vermillon, de cramoisi. Enfin, tous ces noms dérivent de cette couleur rouge. Et aujourd'hui complètement délaissé parce qu'il y a une cochenille bien plus intéressante qui se cultive au Mexique, aux Canaries et ailleurs sur cactus. Et puis il y a évidemment les colorants de synthèse, mais voilà. Et curieusement, cette cochenille que je n'ai jamais vue moi sur, mais j'ai pas assez regardé de près à la loupe, elle a disparu de beaux nombres d'endroits parce que les pesticides qu'on met sur la vigne ont un impact assez considérable sur les bordures et peuvent nuire à cette cochenille.
Okay.
Voilà une petite cochenille à chercher. Donc. Et puis, il a également une cigale qui lui est propre. Il y a la cigale du Kermesse. Mais je ne veux pas insister plus parce que je ne connais, je l'ai jamais vue non plus, celle-là. Voilà, et dernier... alors, c'est aussi pour ça que je voulais parler du chêne. Il y a le chêne, oui, il y a deux autres chênes un petit peu anecdotiques en Cévennes parce que c'est un peu trop froid encore, mais ça viendra. Le chêne liège est évidemment un chêne qui n'est pas encore en station, on va dire, en Cévennes, mais qui risque de l'être dans les parties les plus chaudes. Et on a quelques exemples de chêne liège qui se maintiennent. J'en connais à la Grand Combe et ailleurs.
Okay.
Mais vraiment dans les parties les plus chaudes.
Ouais, actuellement, le chêne liège est plutôt sur le pourtour méditerranéen et côté atlantique aussi, on en trouve.
Voilà, il faut des températures moyennes annuelles supérieures à 12 degrés.
Ah ouais.
Voilà.
Okay.
Donc c'est vraiment chaud. Et pas de gelée hivernale. Mais ça risque de changer, ça. Enfin, dernier chêne, mais qui va ressembler beaucoup au chêne pubescent, mais que je pense avoir déjà vu en Cévennes, mais assez difficile à reconnaître, c'est le chêne tosin. C'est comme chêne pubescent, mais avec des lobes qui s'allongent en doigts très longs, avec des grandes lanières. Et donc, c'est un chêne qui est très présent sur tout l'ouest de la France, et qu'on appelle aussi chêne des Pyrénées. qui est bien présent aussi en Espagne, mais voilà, on l'a à chercher en Cévennes, mais il est probablement présent. Ça fait partie du groupe un peu des chênes pubescents. Voilà, on n'a pas finalement énormément d'espèces de chênes en Cévennes, en France. Hein, on en a une petite dizaine, alors qu'il y en a entre 2 et 400, selon les spécialistes, dans tout l'hémisphère nord, ce qui est beaucoup. Il y en a beaucoup côté asiatique et aux États-Unis, beaucoup plus qu'en Europe. Et ça, c'est lié à des histoires de passé glaciaire. Je ne sais pas si vous avez déjà raconté cette histoire, mais la biodiversité des arbres en Europe est très faible par rapport à l'équivalent aux mêmes latitudes d'Amérique du Nord ou de Chine, pour une bonne et simple raison que quand il y avait des glaciations, ben, tous les arbres étaient poussés dans la Méditerranée, mais n'avaient pas moyen de s'échapper.
Ouais, okay.
Donc à Gibraltar, ben, ils se jetaient dans l'eau, en gros, et puis ils essayaient de traverser côté Turquie. Donc c'était leurs deux axes de sortie. Et donc ce qui fait que ça, au fur et à mesure des glaciations, limitait la diversité. Après, ils revenaient petit à petit, mais on n'a pas comme des zones où les chênes pouvaient migrer, comme en Amérique du Nord ou comme en Chine. Ils avaient toujours de la place pour descendre plus bas, quoi. Ça explique une grande part de la diversité relativement pauvre de l'Europe par rapport aux États-Unis ou à la Chine. Bon, je m'égare et je voulais vous raconter deux, trois blagues sur le chêne. Ah oui, ben, j'ai mon fameux bouquin là. Je terminerai là-dessus parce que là, je me suis complètement égaré. Je terminerai sur une utilisation du chêne. Ah si, j'ai encore un dernier truc. Un chêne qui n'est pas encore présent de manière sérieuse en Cévennes, mais qui est bien regardé par tous les forestiers pour sa grande adaptation au réchauffement climatique, c'est le chêne des Canaries. Est-ce que vous en avez déjà entendu parler ?
Pas du tout.
Si j'en parle, c'est parce que je l'ai re-rencontré récemment et c'est ça qui m'a donné envie de parler des chênes. Donc, il ne fallait pas que je l'oublie, celui-là, ce chêne des Canaries. Je le connais à deux endroits. Mais je pense qu'il est ailleurs dans les arboretums des gens qui plantent des arbres. Notamment, je pense à cette personne qui plante des arbres du côté de Saint-Jean-du-Gard, qui a un immense arboretum. Je ne me souviens plus, sur la montée du col Saint-Pierre. Je suis sûr qu'elle en a.
Janine Bourrelli.
Voilà, ouais. Je suis sûr qu'elle en a dans son... parce qu'elle a une grande variété de chênes. Mais si vous voulez voir le plus beau chêne des Canaries, il faut aller au parc des Cordeliers à Anduze. C'est un des plus beaux arbres de ce parc. Et on en a également au col du Trélis. Le col du Trélis, c'est entre la vallée de l'Ozonnet et la vallée de la Sèze, vers Bessèges. Il y a une allée de chênes des Canaries qui est remarquable. Ils ne sont pas excessivement vieux, peut-être 30, 40 ans, mais ils sont excessivement vigoureux pour le climat dans lequel ils sont. Déjà une roche plutôt très sélective, quoi. C'est des grès avec des argiles, c'est très sec en été. Et on sent que c'est un chêne qui est parfaitement adapté, qui avait encore des feuilles vertes là, il y a 15 jours. Et donc j'ai envie de miser sur la capacité de ce chêne à s'adapter au climat, sans avoir peur d'introduire une espèce... nouvelle, puisque c'est un chêne qui est présent de manière naturelle en Catalogne, donc il n'est pas très loin. Il est également présent en Algérie, au Maroc et dans le sud de l'Espagne. C'est son optimum d'air de répartition, mais il a des chances d'avoir sa carte à jouer, comme le cèdre, dans les essences qui vont bien supporter le réchauffement climatique. Voilà, mon bouquin, vous savez, c'est le traité pratique et raisonné des plantes médicinales de Cazin, qui date de 1800 et quelques, 50 ou 60. Et je vous déconseille de suivre ce qu'il raconte, mais au moins c'est rigolo à lire et il y a des très belles anecdotes. Alors, il parle de ses confrères, puisque c'était un médecin, qui utilise les plantes chez des cobayes, parce qu'ils prennent leurs patients pour des cobayes, et ils regardent ce que ça donne, et puis deux fois ça marche. Alors là, en utilisant le chêne, Dubois, de Tournai, était atteint de violentes douleurs dans le ventre, fut guéri comme par enchantement en avalant une certaine quantité de gland râpé dans un petit verre d'eau de vie. Il se demande avec raison à laquelle de ces deux substances on doit attribuer le soulagement qu'il éprouva. Voilà. Donc je vous recommande ni de manger du gland râpé, ni de boire des eaux de vie avec excès, quoi. Mais voilà, j'aimais bien cette petite histoire.
Merci,
pour terminer sur le chêne. À bientôt.
À bientôt sur Radio Barthès et au mois prochain pour Palabre en forêt. Salut, salut.
Palabre
en forêt.
L'émission
Lozère-Gardoise
qui va à la rencontre
des acteurs forestiers d'ici et d'ailleurs,
avec une rubrique découverte des richesses naturelles des forêts sévenoles.
Retrouvez-nous un mardi sur deux à 11h
et un vendredi sur deux à 8h30
sur Radio Barthès.
107 FM. Latitude 500, longitude 36.